boing, boing, boom, chuck, 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 boing, boing, boom, chuck, ping, boing, boing, boom, chuck, 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 boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boom, chuck, chuck, ping, boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boom, chuck.
Dernière partie, technopop, ultra pop.
Boom, chuck. Music non-stop.
Retour en arrière. Alors que le disco se transformait en long ruban de musique offert aux manipulations des DJ, d'autres mutations électroniques se tramaient en parallèle. Elles étaient bien sûr largement influencées par ces nouvelles musiques et utilisaient les mêmes machines. Des boîtes à rythme, des échantillonneurs, des effets électroniques aux moyens encore limités qui ont éveillé une nouvelle poésie sonore. Marqué par le succès grand public de Kraftwerk à partir des albums Trans-Europe Express et The Man Machine, la pop musique bascule vers les instruments électroniques. Nous sommes à la fin des années 70. Une nouvelle génération d'artistes voit là l'occasion de couper les ponts sonores avec la musique de ses parents. Fondamentalement, la musique reste pourtant la même. Il ne s'agit pas d'une nouvelle temporalité comme le sera la house music ou d'un nouvel art du rythme qui fera naître le hip-hop. Il s'agit toujours d'airs accrocheurs, comme ceux sublimes des Beatles, de Love ou des Beach Boys une décennie plus tôt, mais des airs passés désormais au filtre des circuits imprimés et des batteries électroniques. L'un des premiers jalons de cette pop synthétique est le single Electricity d'Orchestra Manoeuvre in the Dark, sorti en 79. toute cette nouvelle pop moderniste n'est pas restée cantonnée à la musique indépendante et aux radios libres naissantes. Les stars du début des années 80 aussi ont sauté sur ces nouvelles sonorités. Après tout, elles avaient les moyens d'équiper leur studio avec des machines qui coûtaient encore plusieurs milliers de dollars. 4 995 $ exactement, plus de 11 000 euros d'aujourd'hui pour la boîte à rythme LM1, mise en vente en 1980 par l'entreprise américaine Lean. Pour la première fois, une boîte à rythme pouvait produire de vrais sons de batterie, enregistrés en studio par un collaborateur de James Brown. Le résultat était bizarre, mêlant le son organique d'une peau de batterie frappée par une baguette en bois et l'impossible et glacée perfection rythmique martelée par un ordinateur. Comme toutes les machines de cette époque, la Lean LM1 était au départ conçue comme un accompagnateur docile pour les répétitions et les séances de composition des musiciens. Mais sa souplesse en a vite fait un instrument à part entière et un personnage clé de la pop de ce début des années 80. On la retrouve donc chez ABBA, Gary Numan, Depeche Mode, et chez Michael Jackson, qui ouvre son carton Thriller de 82 avec le battement agité de la Lean LM1. Une autre machine occupe l'esprit des musiciens ambitieux du moment, la TR-808 du japonais Roland. Nous avons longuement parlé hier de la TB-303 de la même marque, un séquenceur de basse abandonné parce que trop compliqué, qui s'est révélé par la suite une pièce maîtresse de l'acid house et de la musique des années 90. La TR-808 est de la même génération. Mise sur le marché en 1980 comme l'une des premières boîtes à rythme programmables grand public, elle était bien moins coûteuse que la très chic Lean LM1, à peine 1 200 $. Mais pour ce prix-là, elle était aussi plus limitée et jouait des sons synthétiques tout sauf réalistes. Avec ses 5 pauvres sons de percussions secs et robotiques, elle n'essayait même pas d'imiter un vrai batteur, pardon. Mais elle proposait bien malgré elle, des sonorités complètement nouvelles et donc excitantes. C'est cette TR-808 brinque-ballante que l'on entend dans Planet Rock, l'un des premiers tubes du hip-hop mécanisé signé Afrika Bambaataa. C'est elle aussi que l'on entendra partout jusqu'à aujourd'hui, devenu instrument culte pour ses coups de basse vibrants et sa souplesse rythmique qui permettent toutes les acrobaties. Quel autre instrument aurait pu utiliser Marvin Gaye pour la chanson chargée de marquer sa renaissance en 82 ? Déprimé, perdu dans la drogue, en froid avec son label historique Motown, le chanteur soul se cache alors là où l'on ne viendra pas le chercher, à Ostende, sur la côte belge de la mer du Nord. C'est là qu'il écrit Sexual Healing, la chanson qui le fait changer de décennie et en finir avec les arrangements sirupeux qui ont fini par étouffer le son de la Motown. À la place, Marvin Gaye lance une TR-808 dans une ronde complexe et imperturbable sur laquelle se greffent quelques chuchotements sensuels. Sexual Healing est la première incarnation majeure de la TR-808 dans le paysage sonore. C'est aussi un recommencement salvateur pour le chanteur américain. Malheureusement, cette seconde carrière n'existera jamais, puisqu'il mourra assassiné 2 ans plus tard. Malgré son adoption par Marvin Gaye, mais aussi par les Japonais de Yellow Magic Orchestra ou les Beastie Boys, la TR-808 fut vite dépassée par les capacités bien supérieures de la ligne LM1. Elle se retrouva donc à son tour entassée dans les magasins d'instruments d'occasion. Et pourtant, c'est bien elle qui a survécu aux décennies et davantage marqué l'histoire de la musique. Car les 808 abandonnées ont bien sûr trouvé preneur. Elles ont été récupérées par des jeunes musiciens au travail pour créer le hip-hop au-delà des 2 seules platines qui servaient d'instruments aux pionniers. Puis les passeurs du disco vers la house comme Frankie Knuckles s'en sont servis à Chicago. Mais dans la ville voisine de Détroit, à 4 heures de route à peine, tout ne s'est pas passé de la même façon. Allies of Your Mind, premier morceau du duo Cybotron, formé par Juan Atkins et Richard Davis. ces deux-là auraient pu faire de la house music. Avec leurs deux amis Derrick May et Kevin Saunderson, ils traînaient dans les clubs et les magasins de disques de Chicago pour rapporter à Détroit les nouveautés du moment. Mais ils rêvaient déjà du futur. Atkins, May et Saunderson en particulier, jeunes noirs branchés de la classe moyenne, isolés dans une banlieue de Détroit, Belleville, se sont retrouvés autour d'un intérêt commun pour la science-fiction. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Belleville Three se passionnent en particulier pour la troisième vague, un livre dans lequel Alvin Toffler invente ce qu'il appelle les rebelles techno, l'élite d'une nouvelle génération d'humains, née après le basculement dans un monde informatisé, ultra-technologique et bientôt connecté. Au début des années 80, cet avenir robotisé est partout, dans les livres et au cinéma, en particulier dans Blade Runner, le film de Ridley Scott. La musique des Belleville Three portera donc ce nom, techno. La techno n'est au début des années 80, à l'image de ce morceau « A Laze of Your Mind », qu'un funk robotique. Une envie de rendre Kraftwerk plus groovy, qui se mêle à une imitation du funk très synthétique que joue George Clinton et la troupe Parliament Funkadelic, qui sort son classique « Atomic Dog » en 82. À l'époque, le vétéran Clinton a beau être presque ruiné et lâché par beaucoup de ses musiciens, il a parfaitement compris les transformations techno-funk qui se trament à Détroit, une ville où il a longtemps travaillé. Yeah, this is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, kind dog, funky dogs, nasty dogs.
One more sign, feel like that. One more sign, chase the cat. Nothing but a dog in me. One more stop, feel like that. One more stop, chase the cat. Nothing but a dog in me. One more stop, feel like that. One more stop, chase the cat. Nothing but a dog in me.
L'autre grande passion de Juan Atkins, d'Eric May et Kevin Sanderson, c'est l'émission de The Electrifying Mojo sur la radio WGLB. 5 heures de musique chaque soir de la semaine, de 22h à 3h du matin, lancée comme un voyage dans l'espace musical. Avec en pinacle The Midnight Funk Association, l'heure du funk, l'heure de la musique la plus libre de l'Amérique conservatrice de Ronald Reagan.
This is Electrifying Mojo, traveling. Space and time, in search of a tiny star in the Milky Way galaxy called Earth. We are now being tracked and we are being monitored across the planet. Very shortly, I will make my final descent down to the planet Earth in North America. And now my ship is ready to land. We'll be on the ground. Shortly, in the words of the prophet, the future. It's where your dreams are. The present is where your power is. Life is like a book. And to keep in tune with destiny, like a book, we must continue to turn the page. Another page from a book called The Mental Machine. Just Detroit, just Detroit, just Detroit.
Chaque soir, c'était une discothèque savante qui atterrissait à Détroit avec The Electrifying Mojo. Il passait de tout, les B-52s, la synth pop de Gary Numan ou des chansons de Billie Holiday. Mais il passait surtout les dernières créations de Détroit et de Chicago et chaque nouveau disque de Prince en entier, parfois plusieurs fois de suite.
I'm
Dans la techno, les Belleville 3 fusionnent ce paysage sonore et le mêlent à la noirceur post-industrielle qui s'installe alors à Détroit, capitale déchue de l'Amérique industrielle. Une ambiance de fin de règne qui fera dire à Derrick May « Cette ville est dans un état de dévastation totale, les usines ferment, les gens sont à la dérive et les gamins s'entretuent pour le fun. Si notre musique est la bande-son de tout cela, j'espère qu'elle permet de comprendre quelle désintégration nous vivons. » La techno n'est donc comme la petite sœur ombrageuse de la house et de la synth-pop et du funk. Une musique portée par une rigueur quasi militaire qui prône la mobilisation politico-sociale et préfère l'ombre à la lumière.
Thank you.
La première génération de la techno de Détroit, celle des Belleville 3 et de quelques autres comme Anthony Sheikh Shakir ou Black Baxter, n'aura que peu de succès dans son pays. La suivante non plus d'ailleurs, emmenée par Jeff Mills, Mac Banks, Robert Hood et Richie Hawtin. Ils ont donc exilé leurs activités de musiciens vers l'Europe, la Grande-Bretagne à nouveau, puis la France et l'Allemagne, où la techno va essaimer fortement suite à la publication de deux compilations très influentes à la fin des années 80. En Europe, cette fibre techno se mêle à l'explosion Acid House pour alimenter les rêves dont nous parlions hier. Des fêtes libres qui s'organisent spontanément comme une réaction au règne de l'ultralibéralisme galopant de l'époque. On l'a vu, la réaction politique et policière face à cette vague de liberté sonore fut aussi violente que la musique était cogneuse. Avec pour principale conséquence de renvoyer techno et house dans les clubs et d'en faire un business énorme qui mènera à l'explosion du clubbing touristique sur l'île d'Ibiza ou dans la station balnéaire de Benidorm. Mais ces années chahutées ont aussi inscrit les boîtes à rythme dans la culture sonore d'une génération de musiciens à la recherche d'un clubbing moins sauvage. En Allemagne, les scènes de Berlin et de Cologne en particulier se sont alors lancées dans un concours d'économie de mouvement à la recherche d'une techno réduite à son squelette rythmique et des micro-mutations héritées de la musique sérielle. C'est la techno minimale, une branche qui tire ses principes et son nom d'un disque de Robert Hood, Minimal Nation, secondé par le travail de Basic Chanel ou Richie Hawtin, sous le pseudonyme Plastic Man. Une pulsation qui avance en surprise permanente mais contenue, au fil de longues plages entêtantes. Côté britannique, le couperet tombé sur les années rave a brisé les jambes d'une scène en plein élan. Un label en particulier avait pris ce train en marche, Warp. Une maison de disques fondée à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, qui a alimenté les années Acid House avec des disques de LFO et Nightmares on Wax, avant de se laisser porter par autre chose. Une techno cérébrale, parfois franchement complexe, en rupture avec la nature première de cette musique, à savoir faire danser les amoureux de la nuit. À la place, avec Otecre, Boards of Canada ou Aphex Twin, Warp a comblé non seulement les amoureux de l'électronique avant-gardiste, mais aussi les clubbeurs revenus des musiques trop linéaires. Nouvelles musiques et de nouvelles textures, suivant là les pas jamais rassasiés de David Bowie et Prince à leur apogée créatrice, c'est l'Islandaise Björk qui, à la fin des années 90, joue le rôle de passeuse entre la pop grand public et la techno, de Warp et d'autres maisons de disques. Reine de la conjugaison de talents, qu'elles font dans une musique qui n'appartient au final qu'à elles, Björk a commencé par détourner le trip-hop et la musique industrielle dans Post en 95, puis elle s'est rapprochée de Mark Bell, moitié de LFO, pour Homogénique en 97. Quatre ans plus tard, dans Vespertine, Björk atteint l'os de ses collaborations électroniques de plus en plus minimalistes avec les beats feutrés programmés par Matt Moss et Matthew Herbert. Des musiciens spécialisés dans une micro-techno tout en blip et en cliquetis. Quand les années 2000 s'ouvrent, les musiques électroniques sont dans une situation paradoxale. avec Björk, Radiohead et bientôt LCD Sound System, elle s'offre des passerelles générationnelles qui marquent les fans du rock indépendant des années 90. Moby, quant à lui, prolonge une certaine veine trip-hop, tandis que Dr. Dre et Eminem installent une bonne fois pour toutes le rap dans les classements des meilleures ventes de disques. Les grandes familles house, techno et hip-hop ont désormais 20 ans ou plus. Et on a longuement montré depuis lundi à quel point ces musiques ont pénétré toutes les sphères musicales jusqu'au très grand public. Mais ce ne sont que des coups d'un jour, un effet de manche pour des labels qui reviennent bien souvent à des artistes plus classiquement ancrés dans la culture pop-rock. C'est ce que la radio et les médias dans leur ensemble savent le mieux relayer. Il leur faut des personnages et les DJ sont bien trop taiseux pour cela. Le rock, dans sa forme déjà nostalgique, celui des années 60 et 70, s'offre même un retour au début de la décennie 2000. The Strokes, The White Stripes, The Libertines, on en reprend pour quelques années. Alimenté en intraveineuse par la révolution d'Internet, qui déverse d'un coup toute l'histoire de la musique sur le moindre curieux, les années 2000 sont un moment de sidération. On avance, on recule, on réorganise le passé. Mais les musiques électroniques ne récoltent toujours pas ce qu'elles ont semé. Pourtant, le rêve de Kraftwerk et des expérimentateurs de l'après-guerre s'est réalisé. Désormais, n'importe qui peut produire de la musique en toute autonomie. À partir du milieu des années 2000, des logiciels viennent offrir à toute heure du jour ou de la nuit la puissance d'une console de montage ou imiter les instruments qui ont fait l'histoire des musiques électroniques. Les machines ont bel et bien pris le pouvoir. Dans le même temps, dans les grands studios de production d'où sortent les tubes spécialement formatés pour la radio, comme ils l'ont toujours été depuis que les auteurs de chansons se sont regroupés dans la Tin Pan Alley de New York à la fin du 19e siècle, les machines n'ont pas remplacé le génie des producteurs. Mais elles sont désormais capables de corriger et de transformer n'importe quelle piste sonore.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Faire un tube n'est toujours pas garanti, mais cela devient un peu plus une science qu'appliquent Britney Spears, Beyoncé ou Rihanna en s'arrachant les producteurs les plus performants du moment comme les Norvégiens Stargate, l'Écossais Calvin Harris ou le Français David Guetta. C'est cette génération d'artistes en particulier qui a fini par rompre la résistance des auditeurs américains aux hymnes électroniques. Et à partir de là, de l'ensemble des grands marchés de la musique. Depuis la fin des années 2000, les labels et les organisateurs de festivals ont donc fini par entrevoir l'électronique comme un nouvel Eldorado, capable de venir remplacer le rock comme socle de leur business et donc des chansons les plus populaires. Une façon de dépasser la nostalgisation du rock également, largement réduit à une célébration permanente de son passé. On a donc assisté à l'introduction, dans les tubes compressés de Black Eyed Peas, Rihanna et de leurs suivants comme ici Flux Pavilion, de montées et suspensions néo-rave directement venues des soirées mousse de Cancun ou d'Ibiza. L'industrie a trouvé là un moyen pour amener la génération née après 95 à payer pour la musique. Non pas en achetant des disques, il n'y a aucune raison qu'elle s'y mette, mais en regardant des clips et des publicités sur YouTube. Et en se pressant dans les festivals géants pour vivre ce qu'on lui vend comme son Woodstock électronique. Des concerts géants à Las Vegas, des festivals qui défendent ce que l'industrie a désormais labellisé EDM pour Electronic Dance Music. Ni plus ni moins que la fusion dans une turbine de la house, de l'acid house, de la techno, du hip-hop, du R&B et de multiples sous-genres locaux. En 2015, l'EDM a représenté quelque 30% des revenus de l'industrie de la musique en Amérique du Nord. L'Europe résiste encore, mais elle suit. Mais la musique dans tout ça ? L'EDM, est-ce que le rock des années 50, le punk des années 70 ou l'acid house des années 90 ont été des musiques jeunes et bruyantes, des confrontations générationnelles. Mais l'EDM d'Avicii, Steve Aoki ou Deadmau5 y ajoute un vernis ultra commercial jamais vu jusqu'ici dans les musiques de club. Quand bien même, il n'y a pas de raison que l'EDM reste une musique au ras du sol. D'ailleurs, elle se ramifie en ce moment et cherche ses propres lettres de noblesse au milieu des beats qui cognent. Car même dans le monde impitoyable du top 50, être bizarre, c'est se démarquer. Lemonade, le lemonade. Lemonade, le lemonade. Lemonade, le lemonade. Lemonade, le lemonade. C'est Madonna qui a senti cette bascule parmi les premières. La diva fatiguée est ainsi allée chercher pour son dernier album le producteur britannique Sophie, que l'on entend, apparu il y a peu avec une musique qui sera le terminus provisoire de ce voyage à travers le temps des machines. Avec d'autres musiciens réunis sous l'étendard PC Music, Sophie propose une nouvelle voix. Caché devant son ordinateur, il attrape tous les clichés de l'EDM, les refrains taillés pour s'accrocher en une écoute, les montées systématiques, mais pour mieux vriller tout cela, y injecter des sonorités qui n'auraient jamais leur place dans un studio avec Madonna ou Rihanna. Poussé à son paroxysme par Internet, c'est la combustion instantanée du très grand public et du très confidentiel opérée par des musiciens quasi anonymes. En menant cette politique d'entrisme, Sophie et PC Music prolongent la musique longuement sédimentée, proposée en leur temps par Raymond Scott, Kraftwerk ou Daft Punk. Mais leur nouvelle musique des bruits trouve aujourd'hui un écho surdimensionné et surprenant dans un monde actuellement à la recherche d'un nouveau courant majoritaire. Just that when I'm with you, everything's okay. I'll get that fancy feeling. C'était Continent Musique, le temps des machines, une émission de Sofian Fanen, cinquième et dernier épisode, Technopop, Ultrapop. Cette émission était réalisée par Benjamin Hu, prise de son Clément Daté. Merci à Gérard Chan à la discothèque de Radio France, à Arnaud Plançon et Véronique de Saint-Pastou à l'INA. Toutes les références des œuvres diffusées aujourd'hui sont disponibles sur le site de France Culture, ainsi que quelques conseils de lecture et documents vidéo. Merci à Meitran pour la mise en ligne de tout cela. Vous pouvez podcaster cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours. La semaine prochaine, dans Continent Musique, Véronique Mortaigne vous racontera l'histoire des sons latins qui ont imprégné le monde, du boléro à la Miami Bass. À bientôt.